de Zeus.
Bonjour.
Qu'est-ce qui se passe?
Je ne peux pas vous le dire.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Vous me recevez à vous parler.
Qui êtes-vous?
Je n'en sais rien. Et je compte bien le découvrir.
Fini la rigolade.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle-l'œil? Qu'est-ce que vous faites?
Votre émission hebdomadaire sur le cinéma.
Vous avez une autorisation?
Bien entendu, j'en ai une.
Cinérama.
Ce nom, je l'encaisse pas.
Ben ça, c'est ton problème.
Chronique, blind test, interview.
Eh ben, c'est génial.
Amusez-vous bien.
C'est gentil.
Tout le plaisir est pour moi.
Bonjour, première émission de l'année de Cinérama avec toujours la même formule, en tout cas pour l'année ce sera comme ça. Nous allons parler de films qui sont évidemment sur les écrans, nous écouterons des interviews de réalisateurs et d'acteurs quand nous les croiserons et puis nous jouerons à des blind tests, mais pas aujourd'hui, rien de tout cela. Nous allons parler essentiellement de films et puis nous donnerons notre top 3 de l'année 2025. On reviendra, on fera un petit clin d'œil quand même à cette année 2025 qui vient de se terminer, mais ce sera en toute fin d'émission. Mais avant cela, eh bien nous avons tous des films. Tu en as un, toi, Guillaume?
Oui, alors c'est pas un sujet très joyeux. Hein. C'est le studio photo de Nankin.
Et puis toi, c'est direction l'Arménie, Sophia.
Oui, pour un film qui est déjà sur les écrans depuis le 31 décembre, Le Pays d'Artaud de Tamara Stepanian.
Et puis moi, je vous parlerai d'un film qui est sur une plateforme, mais je voulais vraiment en parler, c'est The Roofman. Et puis nous allons commencer avec une plongée dans une colonie de vacances avec Shai et Geneba, deux amis de 20 ans confrontés à des choix déterminants à l'aube de l'âge adulte. Nous parlons de Ma Frère qui était hors compétition à Cannes.
Dans la vie, quand une chose n'est pas sérieuse, on dit c'est du cinéma.
Cinérama.
Nous en parlerons tout à l'heure.
Ouais, je me rame, c'est comment?
Vraiment belle, hein? Ça me donne envie de palper, les filles.
Palpe-moi, je te pète dessus.
Espèce de folle.
Après les pires qui avaient marqué les esprits, hein, autant chronique sociale que mise en abîme du cinéma tourné dans le nord de la France, le duo Lise Akoka et Romane Guéret poursuit dans la mise en scène de l'enfance et ajoute cette fois-ci bien la dure émancipation vers le monde adulte. Alors autant le dire tout de suite, il s'agit d'un film rythmé, bavard, tonique, surprenant autant qu'il est touchant, reposant sur un casting d'acteurs pour la plupart inconnus, hein, tant ils ne sont pas du tout acteurs en fait. Il y a tout de même alors les deux actrices Fanta Kébé et Shirel Nataf qui se connaissent déjà pour avoir tourné dans la série Tu préfères, diffusée sur Arte et donc déjà réalisée par les mêmes cinéastes. Et puis il y a Amel Bent, la chanteuse, dont c'est le premier grand rôle au cinéma et qui, avouons-le, eh bien, s'en sort très bien.
Et toi aussi tu t'en vas? Ton frère, je le dépose chez les flics, foyer, famille d'accueil.
Elle va rentrer, ma mère, dis pas n'importe quoi.
Et là, tu sautes de loisirs, ils cherchent pas des gens?
Va y avoir le séjour en colo.
T'as bien vendu ta copine. Oh là là, elle t'aime. C'est pas une promenade de santé, une colo.
Il y a une fille, elle veut sortir avec toi.
Mon pote, ça va être grand.
Yeah. Je leur raconte des histoires, je leur fais rire et j'ai le permis, ça c'est le principal.
Les métros, les escalators, flemme, toi, tu sais, Sabrina.
La grammaire aussi, un peu, flemme.
Pour Ma Frère, les réalisatrices accompagnent un groupe de jeunes d'une cité de la Place des Fêtes à Paris, partant en colonie de vacances dans la Drôme. Il y a le groupe d'enfants que nous suivons, des jeunes entre 8 et 14 ans, mais aussi les animateurs qui sont donc de jeunes adultes. La réussite du film tient dans l'exercice d'immersion parfaitement réussi, comme si la caméra s'effaçait pour laisser les interactions se dérouler, des instants calmes à ceux plus agités. Donc le film est bavard, c'est ce que j'ai déjà dit. Oui, c'est ce qui fait sa force et sa vitalité. Alors il y a des questions de la plus haute importance, comme tu préfères manger ton caca ou celui de Beyoncé, ou question posée à un jeune garçon qu'on voit tout de suite en couple, alors qu'il a à peine 10 ans, tu préfères embrasser Yasmine ou manger un mon chéri? Mais il y a vraiment aussi des questions plus profondes, comme tu préfères être riche et seul ou pauvre et aimé? Pour les enfants, eh bien, c'est une question qui revient quasiment à se demander s'ils veulent être un grand footballeur malheureux ou une chanteuse dépressive, ou alors vivre, pourquoi pas, comme leurs parents dans un HLM et avoir de bons amis. La question de l'identité traverse le film au moyen de différents personnages, et donc notamment les animateurs. La transition de genre est abordée, eh bien, d'une belle manière avec un animateur non-binaire qui désarçonne l'animatrice Shai, la plus brute de décoffrage, qui demande ouvertement si c'est une fille ou un garçon, avant que les enfants lui répondent que l'animateurice, c'est comme ça que tu dirais, Sophia, et les deux. C'est plus simple finalement que de trancher. Les enfants se soucient bien moins des normes sociales, de la couleur de peau, de la religion et de la tendance politique. Shai, avec son énergie perturbatrice, doit faire avec un grand frère qui veut contrôler qui elle voit. Il y a aussi sa copine Geneba qui doit se débattre avec une situation familiale compliquée. Alors qu'elle rêve d'émancipation, de se sortir de son milieu, le comportement de sa mère irresponsable la condamne à prendre des responsabilités auxquelles, eh bien, elle aimerait bien renoncer. s'arrêter devant se soucier de son plus jeune frère d'un an.
Attends, mais genre, on va dormir là-dedans, là ?
Maintenant, dors, s'il te plaît, ma fille.
Hey, je suis pas ta fille, frère.
Bon, vas-y.
Tu préfères voyager dans le futur ou dans le passé ?
Dans le passé, tu peux réparer tes erreurs, tout ça.
Mais c'est pas à toi de porter ce poids-là, ma poulette.
En faisant le choix du dialogue, en laissant ces personnages exister, jusqu'à parfois tirer fortement le trait sur une personnalité, notamment l'animatrice Shai, qui a beaucoup de mal à susciter la confiance tant elle confond pulsion et liberté, eh bien pour les deux héroïnes, il est question de gagner de l'argent, il est question de faire au mieux avec la perte de l'innocence, d'embrasser cette vie de jeune adulte et de s'arranger avec leur milieu socio-culturel. Ces deux individualités, deux jeunes femmes donc en pleine construction, irriguent le récit avec leur amitié, leur force et leur aspiration comme détermination.
Il ne faut jamais revenir. Autant cacher les souvenirs du temps béni de son enfance. Car parmi tous les souvenirs, ceux de l'enfance sont les pires. Ceux de l'enfance nous déchirent. Ma très chérie, oh ma
j'ai
mère,
quand même minimum d'espoir pour eux. Sinon, je sais pas, moi c'est invivable.
J'ai pas la force de m'expliquer, là je te le dis cash.
Parfois je me dis peut-être que je peux changer un tout petit peu la vie d'un enfant. Vas-y, toi-même, tu sais, des fois il y a des rencontres qui comptent. Hélas.
Les Français, c'est des décontractés, wesh. Allez.
Alors, si elle dit que les Français sont des décontractés, c'est qu'ils passent devant. Alors, je crois qu'ils passent sur une rivière et il y a des naturistes qui sont devant eux. Comme le film est bavard, il recèle de dialogues percutants, de drôleries à peine inventées dans le scénario. Cela repose sur la manière de travailler des deux réalisatrices qui ont accumulé les séquences avec plus de 150 heures de rush durant le tournage. Alors, il se déroulait une vraie colonie de vacances. Donc, ça donne une authenticité finalement folle à l'image. Alors, il faut voir Ma Frère comme une occultation de la jeunesse, de la perte de l'innocence. Un film évidemment politique, un geste cinématographique qui veut embrasser au plus juste la population qu'il décrit, c'est-à-dire un milieu populaire avec ses excès, ses défauts, ses qualités, son amour. La comédie peut surgir au détour de séquences sans qu'on soit confronté à un cliché et ça, ça fait vraiment du bien. Ma Frère, donc, est ce film qui a été présenté hors compétition au dernier Festival de Cannes et il est sur les écrans depuis le 7 janvier. Nous ouvrons maintenant une page historique tragique avec le studio photo de Nankin.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Oui, et j'ai horreur des questions.
Pour son deuxième film seulement, Hao Shen n'a pas choisi la facilité et s'attaque à un morceau d'histoire particulièrement douloureux, aussi révoltant que peu retenu par la multitude, les événements tragiques que l'on a surnommés le viol de Nankin. Alors le film se situe au moment de la prise sanglante de Nankin en Chine par l'armée japonaise en décembre 37 et met en scène donc un jeune homme qui échappe à la mort en prétendant pouvoir aider l'armée nippone à développer les photos de ses exactions. Il s'installe dans un studio photo qui devient alors un lieu de résistance et risque sa vie pour sauver des familles et révéler les preuves des atrocités commises. À titre de comparaison, même s'il n'est pas du meilleur goût de faire un comparatif dans l'échelle de cruauté de l'histoire humaine, ce qui s'est passé à Nankin est rapprochable du traumatisme français du massacre d'Oradour-sur-Glane, mais à bien plus grande échelle. C'est un marqueur historique de la cruauté d'un peuple et d'une idéologie si violente, si horrible, qu'il est impossible de minimiser, relativiser ou rationaliser d'une manière ou d'une autre ce qu'il s'est passé. Alors ce n'est pas pour rien que l'atroce événement a été surnommé le viol de Nankin, les mots ayant un poids dans le travail de mémoire immédiat et à long terme. Le studio photo de Nankin n'est pas le premier film chinois d'envergure, autant financière qu'esthétique, qui s'est emparé du sujet. Il y avait eu avant le chef-d'œuvre de Xun Lun, City on Life and Death, au titre terriblement équivoque, et qui est sorti en 2010. Xun Lun avait choisi un magnifique noir et blanc pour atténuer d'une certaine manière les horreurs montrées à l'écran et émuler le travail magistral effectué par Steven Spielberg avec La Liste de Schindler. Hao Shen, lui, fait le choix de repasser l'horreur en technicolor, ou plutôt techni-horror. Il y a dans le studio photo de Nankin tout le poids de la métaphore du cinéma. C'est un film qui a pour but de dénoncer les exactions commises par les Japonais et de faire figure de relais historique auprès des jeunes générations, geste tout à fait précieux et probablement encore plus aujourd'hui, puisque le récit du viol de Nankin a été soigneusement effacé par les autorités japonaises et que les descendants des victimes peinent à faire reconnaître en dehors de leurs frontières. Il y a donc une mise en abîme hein, de ce qu'est au fond le cinéma, hein, quelque chose qui capte un événement pour le rendre immortel. Face à l'horreur, hein, face à la mort, il y a cet appareil photo et derrière lui, bah, tout cet art et ce langage qui vont permettre de ne pas oublier, de témoigner et de remettre un visage sur les chiffres effroyables de ce massacre. Le studio photo de Nankin, hein, c'est aussi un témoignage documenté sur ce que le fanatisme et le fascisme continueront bah, de donner de pire hein, dans les guerres à venir avec cette volonté de mettre en image l'innommable. On pense bien sûr aux vidéos de propagande djihadiste hein, qui mettent en scène les tueries des terroristes et tout ce qui sert à montrer la force brute via la terreur. Rien n'a changé de ce côté-là. C'est pourquoi il est passionnant de suivre au sein d'une grande fresque le destin de personnes qui comprennent que l'image a un tel pouvoir et qu'il va falloir la retourner contre ceux qui l'ont produite, même si cela signifie se brûler les ailes. Alors rappelez-vous de l'accroche sur l'affiche de Platoon, l'innocence est la première victime de la guerre. C'est exactement ce que nous montre de manière magistrale le studio photo de Nankin, un grand récit sur la chute des consciences, sur la corruption, la fin de l'humanité, mais aussi comment une partie de cette humanité peut avoir cette étincelle qui va permettre de combattre tant bien que mal se peut le néant de la haine.
Et bien voilà, nous sommes passés de la colonie de vacances à la guerre sans transition, donc pour parler du studio photo de Nankin dans quelques salles en France. En Arménie, Céline cherche à comprendre la mort de son mari, Arto, et se confronte à un passé fait de guerre, de mensonges et de blessures encore ouvertes. Nous parlons du pays d'Arto.
This is Cinerama.
Je m'excuse, mais c'est aussi simple que ça.
Sarian, c'est mon mari.
Le nouveau cinéma de Tamara Stepanian se présente d'emblée comme un pari passé du documentaire à la fiction, tout en gardant la même obsession pour les traces, les absences et les fantômes qui hantent un pays entier. Le pays d'Arto est effectivement son premier long métrage de fiction après plusieurs documentaires, dont Mes fantômes arméniens, un projet intime autour de l'histoire de son père, grand acteur dans le cinéma soviétique arménien. Encore dispo, sauf erreur de ma part, sur Arte TV pour ceux qui souhaiteraient le découvrir. Le pays d'Arto s'inscrit ainsi dans une double trajectoire entre réel et représentation. Dans ce road movie à travers l'Arménie, Camille Cotin incarne Céline, une Française venue chercher un acte de naissance pour son mari défunt et qui se retrouve confrontée à un passé qu'elle ne connaît pas. Un royaume de visages et de récits qui semble surgir d'un au-delà historique. En 2025, on a vu Camille Cotin un peu partout, dans Rembrandt ou encore dans Les enfants vont bien, plus ou moins bien dirigé. Ici, dans le pays d'Arto, son personnage ne se contente pas de parcourir un territoire, il traverse le deuil et les strates d'une mémoire collective, accompagnée par plusieurs guides, rencontrant des êtres dont la présence parfois quasi spectrale en dit plus que n'importe quel exposé historique. Et c'est précisément cet entre-deux, entre fiction et document, entre vie et mort, que la caméra de Stepanian scrute avec une acuité singulière.
Arto Sarian, c'est mon mari.
Il est mort il y a 6 mois. J'ai besoin de son acte de naissance pour nos enfants. Pour qu'ils puissent avoir la nationalité de leur père.
Vous devez vérifier vos informations. Vous savez, les hommes, ce sont les menteurs. Tous.
Alors Céline arrive en Arménie avec un objectif précis et administratif, retrouver l'acte de naissance de son mari, Arto Sarian, mort récemment, afin que leurs enfants puissent obtenir la nationalité arménienne. Elle atterrit à Gyumri, ville marquée à jamais par le séisme de 88 et par les ruines laissées par la fin de l'URSS. Très vite, pourtant, les choses se compliquent. L'homme qu'elle pensait connaître n'existe pas tout à fait. Arto Sarian n'a jamais existé, du moins pas sous cette identité. Son nom, son passé, son histoire se dérobent. Commence alors un road trip à travers le pays, fait de rencontres successives, chauffeurs, archivistes, anciens combattants, guides touristiques. Parmi eux, Arsine, mi-iranienne, mi-arménienne, incarnée par la géniale Zahr Amir Ebrahimi, ancienne combattante du Haut-Karabakh, figure centrale et magnétique qui accompagne un moment Céline dans sa traversée, sans trop de didactisme. Chaque étape révèle un fragment de vérité, mais surtout une accumulation de récits interrompus, de vies marquées par la guerre, la perte et le silence. Plus Céline avance, plus le film semble délaisser l'enquête au sens classique pour se laisser envahir par autre chose. Des visages filmés longuement, des paysages chargés d'histoire, des lieux abandonnés, comme si l'Arménie elle-même prenait la parole, mais en chuchotant. Le voyage devient moins une quête de réponse qu'une immersion dans un pays hanté.
Il faut avoir une bonne raison pour faire ça.
Pour faire quoi ?
Changer de nom.
Dis rien aux enfants, mais je suis pas sûre que je vais pouvoir rentrer demain. C'est un peu compliqué là au niveau des papiers.
Agdam, ça te dit quelque chose ?
Personne t'emmènera là-bas. C'est beaucoup trop dangereux.
Ce qui frappe initialement dans le pays d'Arto, c'est la manière dont la fiction semble constamment menacée par le réel et inversement. Tamara Stepanian vient du documentaire et ça se voit. Le film est peuplé de personnages arméniens qui ne sont pas des acteurs professionnels pour la grande majorité. Mais Le Pays d'Artaud est aussi et peut-être surtout un film de fantômes, pas au sens métaphorique ou poétique, mais presque littéral. Des morts sans sépulture, des disparus de la guerre du Haut-Karabakh, des absents dont personne ne peut vraiment faire le deuil. Le film avance avec cette idée obsédante. Dans un pays où beaucoup de morts n'ont pas de tombe, ce sont les vivants qui portent la mémoire à bout de bras. Et la figure de Céline, qui est centrale dans ce dispositif, incarnée par Camille Cotin, et c'est un personnage volontairement en retrait, parfois même un peu ingrat. En fait, elle est celle qui circule, qui écoute, qui relance. C'est une sorte de passeuse, de guide à la fois diégétique et spectatorielle. Elle est guidée par les Arméniens qu'elle rencontre, mais elle nous guide aussi, nous, spectateurs occidentaux, à travers un pays que l'on connaît mal. Et cette position est parfois un peu théorique, presque fonctionnelle, mais elle trouve sa justesse dans l'humilité du jeu de Cotin, malgré quelques petits ratés. En tout cas, lorsque Tamara Stepanian ose pleinement la fiction, le film prend une toute autre ampleur. Les scènes de rêve presque hallucinées fonctionnent mieux que les dialogues scénarisés. Au bord du lac Sevan, dans des paysages trop calmes pour être innocents, ou dans cette séquence saisissante, au cœur d'une usine désaffectée, où la violence semble inscrite dans les murs délabrés. Quand le film cesse d'enquêter pour dériver, pour laisser surgir l'inconscient collectif d'un pays, il offre ses moments les plus forts, ceux où la mise en scène accepte de se perdre, comme son héroïne. On pense à Dest de Chantal Akerman, avec ce déplacement à travers des visages et des pays marqués par la chute du mur de Berlin et les traces laissées par l'URSS, ou au film de route méditatif comme Le Sans-Soleil de Chris Marker, où de la même manière, le personnage principal est bien plus vecteur de circulation à travers un territoire et ses mémoires que moteur de l'action.
Comment je fais si je veux aller là-bas?
Tu peux pas, c'est la guerre là-bas.
Elle ne nous a jamais parlé de sa vie d'avant?
Non.
You want to know what? Der Tod ist der Tod!
Il faut sauver les morts.
Le Pays d'Artaud n'est pas un film parfaitement lisse, son jeu de piste narratif peut parfois sembler convenu, son dispositif un peu visible, mais il est traversé de mémoire, habité par quelque chose de plus grand que sa propre fiction, un film où le réel s'invite à travers les fantômes.
Et bien voilà, troisième film de cette émission, complètement différent. Encore une fois, Le Pays d'Artaud est en salle depuis le début de l'année. Allez, on quitte les salles de cinéma pour la plateforme, mais il était important de parler de ce film inspiré de faits réels, un thriller qui retrace le parcours d'un cambrioleur surnommé Roofman, connu pour opérer depuis les toits.
Avec vous, c'est du travail soigné.
Cinérama.
Et ça, c'est clair.
Quand on repense à sa vie, on se demande tous, et si j'avais fait d'autres choix? Est-ce que je serais ici?
Aucune trace de l'évadé qui est surnommé le Roofman.
Voilà encore un film qui ne passera pas par les salles de cinéma et qui est pourtant dirigé par un grand réalisateur. On le doit en effet à Derek Cianfrance, le réalisateur de drames que sont dans des styles bien différents de Place Beyond the Pines et Blue Valentine, deux longs métrages avec Ryan Gosling. Alors cette fois-ci, le réalisateur a choisi un acteur plus en muscle en la personne de Channing Tatum, acteur chouchou de Soderbergh. Le sujet est aussi plus léger que ses précédents films. Il prend l'histoire vraie d'un homme surnommé The Roofman, soit le couvreur. Alors pourquoi? Parce qu'il a cambriolé plus d'une quarantaine de McDonald's et vidéoclubs en passant par le toit. Et avec ça, alors qu'il était recherché, il a squatté un magasin de jouets pendant 6 mois, attaquant sévèrement le rayon de M&M's. Un type vraiment à part, qui n'avait rien d'un grand braqueur. Alors au départ, on serait presque dans un film de Ken Loach, ancien de l'armée. Jeffrey Manchester ne vole pas pour être pété de thunes, mais parce qu'il est complètement à sec au point que pour l'anniversaire de sa fille, eh bien, il ressort son vieux jeu de mécano quand elle veut un vélo.
Une chasse à l'homme s'est ouverte pour retrouver l'évadé.
Trouve-toi un endroit sûr pour te planquer.
C'est quelqu'un de super intelligent.
Justement, je voulais te voir.
T'aimes bien les M&M's, c'est pas vrai?
Il manque plein de paquets.
Ils doivent bien être quelque part.
Jeffrey Manchester est un braqueur atypique qui sait être magnanime avec ceux qu'il braque et à qui finalement on s'attache très vite. Pris par la police et emprisonné, le voilà donc qui s'évade, ce qui permet de fournir un autre récit que le thriller. Le braqueur s'est ménagé une planque donc dans un Toys R Us. Pour tromper l'ennui, il déverrouille les caméras du magasin et installe des babyphones un peu partout, enfin des babyphones avec caméra, jusqu'à s'intéresser à une vendeuse du magasin, une fille pas comme les autres, tranquille Kirsten Dunst, qui lutte contre le petit chef du magasin de jouets, impeccable Peter Dinklage et est bénévole à son église de quartier. Et c'est quand le prisonnier en fuite décide de rentrer en interaction avec elle, eh bien, qu'il se complique sérieusement la tâche. C'est cette relation, comment elle naît, comment elle se nourrit, qui va faire avancer le film. Lui, le père célibataire, coupé de sa fille à cause de sa mère, eh bien, va pouvoir vivre une histoire où il est amant et père de substitution. Un drame dans sa situation, car la femme qu'il rencontre est proche de Dieu et préfère la vérité. Lui se doit bien sûr de cacher qui il est vraiment. Alors on ne sait pas très bien comment va se dénouer cette histoire d'amour, pourtant très bien fichue. C'est un drame supplémentaire.
La police est persuadée que le Roofman est toujours dans la région.
C'est quoi ça ? Oh !
Voilà ton passeport. Tu dois partir ce soir.
Je peux pas rester un peu, je serai discret.
Tu dois te rappeler à qui t'as parlé.
T'es toujours aussi sexy.
Dis-moi ce qui se passe. Maintenant.
Quel genre d'homme tu veux être, Jeff ?
Le prisonnier qui se cache dans un magasin de jouets fournit à Derek Cianfrance le moyen de confronter son personnage à une société de consommation qui marchandise le désir avec toutes ses peluches, ses super-héros. Dans ce lieu où Noël se prépare avec une très grosse recette qui donne envie qu'on la dérobe, eh bien notre personnage est sans cesse renvoyé au père qu'il ne peut être car forcé de vivre caché. Roofman ou Un voleur sur le toit, comme il a été traduit en français, est un film plutôt plaisant, tendre, profond sur le sens de la vie et les actes qu'on y commet. Et bien c'est un film qui est recommandable, d'autant qu'il est sur une plateforme qui n'a pas tout le temps l'habitude de faire de très bons films. C'est Prime Video. Nous faisons maintenant un petit retour sur l'année 2025 pour bien entamer cette année 2026.
Et maintenant,
Cinérama.
Tout est parfaitement en ordre.
Durant l'année 2025, 156,79 millions d'entrées ont été enregistrées dans les salles de cinéma en France, soit une baisse d'environ 13,6% par rapport à 2024. Cette baisse serait surtout liée à l'absence de films locomotives, comme on les appelle. Contrairement à l'année précédente, le top 5 est occupé évidemment par le cinéma américain. Premier, c'est Zootopie. Deuxième, Lilo et Stitch. Donc bien deux films pour enfants. Le troisième, Avatar, De feu et de cendre. Le quatrième, F1 le film. Et le cinquième, Jurassic World, Renaissance. À noter qu'Avatar réalise son score dans le top 3 en seulement 2 semaines. On peut dire sans peine que c'est lui vraiment le grand champion de l'année 2025 et qui pourrait même être le grand champion de l'année 2026 en fait. À noter qu'il n'y a que 3 films français dans ce top 20: God Save de Tuche, Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan et Un ours dans le Jura. Alors cette année 2005 nous donne l'occasion de revenir sur celle-ci en parlant de nos 3 coups de cœur. Qui veut commencer? Alors peut-être toi, Sophia.
Ok, je me lance. Du coup, en haut de mon top 3, je dirais que c'était impossible pour moi de ne pas sélectionner un film qui traite de la situation des Palestiniens, dans la bande de Gaza notamment, et du génocide en cours par Israël. À ce sujet, il y a pas mal de films qui sont sortis cette année, des documentaires, de la fiction, qui ont réussi à arriver sur nos écrans en un temps record, considérant l'urgence de la situation et la rapidité dont ils ont fait preuve pour traiter et restituer l'actualité avec justesse et sensibilité. Le premier immanquable, ce serait Put Your Soul on Your Hand and Walk, de la franco-iranienne Sepideh Farsi, mais on peut penser aussi notamment à celui au film de fiction, donc Fiction Restitution Reconstitution de Kauter Benania, la voix de Hind Rajab. Mais ce que je retiens en haut de mon classement, c'est ni l'un ni l'autre, mais plutôt Yes, le film de Nadav Lapid, un film israélien, donc qui porte son regard sur une société israélienne dépravée, aux idéaux contaminé par un espèce de sentiment de toute-puissance et une artificialité hors sol. Le oui du titre, c'est le oui de la compromission pour tous les sympathisants de ce régime d'extrême droite totalitaire génocidaire. Paradoxalement, le film est certes inégal, mais très drôle, excessif, débraillé, choquant. Voilà, un film à voir.
Allô, Tawarek Hilal Al-Ahmar, Ramallah, Al-Daf Al-Gharbi, Omar Maak, Tfaddal. انت شو اسم العيله شو اسمك الكامل
انا عمي مين مع بعض
هلا انت ومين كنتوا مع بعض
كنت اهلي ومامي معكم
الو
بس عندنا تفاصيل طواقم الانقاذ المتاحه
alors toi Guillaume ce serait quoi ton top 3?
Alors moi, mon top 3, il va commencer déjà par un film qui malheureusement n'est pas sorti en salle en France, alors qu'il a fait l'ouverture de la Berlinade 2025. C'est le dernier film de Tom Tweaker, le réalisateur de Courlo la Cour. Il a signé un film qui s'appelle The Light, qui est absolument magnifique. C'est encore un film choral, un petit peu comme ce qu'il avait fait avec les Sœurs Wachowski pour Cloud Atlas. Et je vais pas trop en parler parce que c'est pas encore sorti chez nous, mais c'est absolument brillant. C'est à travers un pitch un peu improbable où une femme de ménage syrienne arrive dans un foyer berlinois, on va dire décomposé. Beaucoup de choses vont se passer et je veux pas trop en dire parce que on est encore comme d'habitude chez Tweaker entre la magie du quotidien et les interactions sociales mises en scène de manière assez dynamique et brillante. Le second, ça serait Black Dog de Gwen Hu, que j'ai trouvé absolument fabuleux, où un homme qui revient après qu'un lourd passé dans sa ville va se retrouver avec un portrait miroir avec un chien que tout le monde veut abattre, et j'ai trouvé que la justesse de la mise en scène permettait d'avoir un film qui disait beaucoup de choses sans aucune parole, parce que ce qui est génial, c'est que le héros est mutique, donc c'est du vrai cinéma à mon sens. Et pour la troisième place, c'était très dur parce que j'avais envie de mettre deux films pour le coup qui m'ont plu, qui m'ont nourri à égal dosage, on va dire. C'est le Nouvelle Vague de Richard Linklater. Richard Linklater, c'est vraiment un réalisateur que j'adore depuis de très nombreuses années. Je pense que c'est sincèrement l'auteur indépendant le plus intéressant de ces 30 dernières années américain. Et avec Nouvelle Vague, c'est quand même fou que ce soit un Américain qui fasse un film en français absolument génial sur la création du fer de lance de la Nouvelle Vague. Et c'est fait avec une finesse, une intelligence absolument remarquable. Tu en avais déjà longuement parlé, Vincent. Et le deuxième ex aequo, cette troisième position, c'est Avatar de Feuilles de Cendre, ce que j'aime aussi énormément de James Cameron. Et je pense qu'il a fait un film extrêmement politique et plus intéressant que les films politiques qui sont sortis cette année, du style le Paul Thomas Anderson.
Oui. Regarde. Il n'est rien de plus pur en ce monde. Le feu est venu de la montagne. Brûler notre forêt. Mon peuple a versé tant de larmes. Mais Iwa n'en a eu que faire.
Mon top 3, ça va être The Brutalist, un film comme on en voit rarement, une entrée en matière hautement cinématographique, un récit captivant, une interprétation remarquable, une musique tout autant. The Brutalist était vraiment taillé pour la salle de cinéma avec son entracte, comme on peut en avoir dans les grands spectacles quand on va à l'opéra par exemple. Ce qu'il raconte avait presque moins d'intérêt que ce qu'il montre pour un budget ridiculement bas.
Pourquoi ne vous êtes-vous pas défendu quand je vous suis tombé dessus comme une furie? J'ai appelé votre cousin américain, alors...
Attila.
Oui, voilà. C'est ça. D'abord, je me suis excusé, puis je l'ai couvert d'éloges, mais il m'a tout de suite dit, et c'est tout à son honneur, que je devais m'adresser à vous. J'ai fait quelques recherches depuis. C'est de vous, n'est-ce pas ?
L'Agent secret, c'est mon deuxième film, film de Kleber Mendoza Filho, qui aurait pu avoir la Palme d'Or à Cannes. Il a tout de même eu deux prix, dont celui de la mise en scène et de l'interprétation masculine, ce qui déjà dit beaucoup sur sa qualité et la facilité avec laquelle on peut le regarder. Le réalisateur brésilien parvient à sculpter le passé de son pays, aux prises avec la dictature militaire, sans nous mettre tout à fait les yeux en face, seulement au travers de son personnage qui doit se faire oublier, d'où le titre Agent secret. Et puis le dernier film, j'en ai réussi beaucoup, j'aurais pu en choisir plein d'ex-aequo, mais je tiens quand même à parler de Dossier 137. Je choisis ce film pour son utilité, sa pertinence. Il raconte le travail d'une enquêtrice de l'IGPN censée faire la lumière sur une présumée violence policière. Avec justesse et une certaine rudesse, Dominique Moll met en lumière un outil démocratique, celui du contrôle de la police par le citoyen. Et on voit bien que ce n'est pas si simple. Et ça nous ramène finalement à cette fonction que pourrait avoir le cinéma, c'est-à-dire vraiment de regarder la société telle qu'elle est, puisqu'on parlait de ton top 3 avec les films sur l'histoire palestinienne. Ainsi s'achève cette première émission de Cinérama.
Je vous trouve si nerveux, quelque chose ne va pas ?
Terminé pour aujourd'hui.
Pas si vite.
Excusez-moi encore de vous avoir dérangé.
Ça ne me dérange pas le moins du monde.
Je ne comprends pas ce que vous essayez de me dire.
Elle lui arrive quoi, elle ?
Au revoir.
Pardon ?
J'espère que nous aurons le plaisir de vous revoir.
De vous revoir.
De vous revoir.
Oui, ça ne fait aucun doute.
Ça ne servirait à rien de le nier.
Merci.
On se retrouve la semaine prochaine. Toi, Guillaume, tu auras trois films.
Oui, une ressortie événementielle, City on Fire, mais aussi deux autres titres, Palestine 36 et Le Tank.
Et puis, il y aura aussi une interview, celle de Julien Osmalin, pour son premier film qui s'intitule Sans pitié. À la semaine prochaine.
Je m'appelle Bob Ferguson. Je ne sais pas si tu as entendu parler de moi, mais j'étais membre des French 75 pendant des années. De longues années, ok? Les camarades m'appelaient Ghetto Pat, Rocketman, ce genre de trucs. Mais le problème, c'est que je me suis grillé la cervelle depuis tout ce temps. J'ai pris plein de drogues, je me suis pris des cuites. Ça doit faire genre 30 ans que je me défonce.
This is Cinerama. 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 Cinerama.